Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur et il se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avait instruit les fidèles, allumez le Saint-Esprit de nous, par son même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort.
Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous
pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Notre Dame de Fatima, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous allons parler ce soir de l'Immaculée Conception. C'est un sujet qui est à la fois immense et très précis selon la manière de l'aborder. Il y a l'aspect à la fois donc théologique, l'aspect même politique, on peut dire, les circonstances dans lesquelles ce dogme a été défini, les raisons profondes même pour lesquelles le pape Pie IX a voulu définir, lutter contre les erreurs du temps. Et je pense que c'est, bien sûr, nous sommes proches de cette fête, nous sommes dans l'octave de la fête de l'Immaculée Conception, mais c'est une fête qui, pour nous, est encore d'actualité, même importante, cette dévotion à l'Immaculée Conception, car on y trouve un peu la réponse aux erreurs de notre temps. Alors, j'aborderai dans cet exposé tout d'abord cette notion d'Immaculée Conception, le dogme en lui-même, ce qui a été défini par le pape Pie IX. Ensuite, il s'agira de voir où était contenue cette vérité dans l'Écriture sainte et dans la tradition. Et puis, je terminerai par un aspect plus général, voir un peu l'aspect providentiel de l'Immaculée Conception. Pourquoi il convenait, pourquoi Dieu dans sa providence a voulu que ce soit en notre temps, on peut dire, qu'ait été défini ce dogme. Et nous sommes maintenant à l'orée de la 150e année de la définition du dogme, puisque le pape Pie IX l'a défini en 1854. Donc je pense que c'est important. C'est dans la bulle Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854 que le pape Pie IX a promulgué ce dogme, c'est-à-dire a affirmé comme une vérité de foi l'Immaculée Conception. Marie est préservée dès sa conception, dès le premier instant de son existence, de toute tâche du péché. Cela s'est fait au cours d'une très grande solennité à Rome, concours de plusieurs centaines d'évêques et cardinaux, etc. Grand concours de peuple aussi. Le pape venait d'être rétabli dans ses états pontificaux, puisqu'on avait été chassé en 1848, par la Révolution. Et dans cette bulle, Ineffabilis Deus, est contenue la partie vraiment centrale du dogme, là où le pape affirme la vérité. Je vous le lis simplement, c'est peut-être un texte un peu difficile, comme c'est le style des bulles pontificales, mais on a vraiment là la chose essentielle. En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans l'humilité et le jeûne, nos propres prières et les prières publiques de l'Église de Dieu, de l'Église à Dieu le Père par son Fils, afin qu'il daignât, par la vertu de l'Esprit Saint, diriger et confirmer notre esprit. Après avoir imploré le secours de toute la cour céleste et invoqué avec gémissement l'Esprit Consolateur, et ainsi, par sa divine inspiration, pour l'honneur de la Sainte et Indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, tes bienheureux apôtres Pierre et Paul, et la nôtre, et celle à la partie centrale, nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu. Et par conséquent, qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'est donc une vérité de foi catholique. C'est pourquoi, poursuit-il, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église, et que de plus ils encourent par le fait même les peines du droit s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par écrit ou de toute autre manière extérieure que ce soit. Toute personne donc qui viendrait à nier ce privilège de l'Immaculée Conception serait, à proprement parler, hérétique et donc hors de l'Église. Il n'a pas la foi catholique. Le pape, en lisant cette définition, pape Pie IX, était ému. Sa voix, d'ailleurs, en prononçant la partie centrale, s'est un peu cassée. Toute l'assemblée était vraiment prise par cette grande définition. Voyons maintenant ce qu'enseigne l'Église au sujet de Marie Immaculée. Que Marie est exempte de toute tâche du péché, et notamment du péché originel, à laquelle tout homme qui est descendant d'Adam par la voie naturelle est soumis. Du fait même de notre conception, de notre descendance d'Adam, nous sommes tous marqués par le péché originel. Un rappel bref de ce qu'a été ce péché originel, je pense que vous connaissez le récit de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Voilà donc le récit du péché originel que nous fait Moïse dans le livre de la Genèse. Il s'agit pour Adam et Ève d'un péché personnel, d'un péché d'orgueil. Ils ont ce désir d'être comme Dieu, non pas créateur, c'est une absurdité, non pas maître de toutes choses, mais en réalité ce désir d'être indépendant de Dieu, de connaître le bien et le mal, c'est-à-dire de se fixer à eux-mêmes le but. Dieu nous a créés pour un but, pour l'aimer, le servir, le louer et obtenir le bonheur éternel. Pour Adam et Ève, c'était sans passer par la mort. Adam et Ève, par le péché originel, disent « Eh bien, nous voulons fixer nous-mêmes le but de notre vie. Nous voulons nous passer de Dieu. » Et c'est finalement le péché du monde moderne. On le voit à cette déclaration des droits de l'homme, où l'homme, finalement, se définit ce qu'il est par lui-même et ne fait aucune référence à Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. On laisse Dieu de côté. Et c'est déjà là, on verra, une des raisons pour laquelle cette définition de l'Immaculée Conception, qui vient un peu en opposition au péché originel, est importante pour notre époque. Péché d'orgueil, donc, puisque Adam et Ève pouvaient commettre uniquement le péché d'orgueil, puisqu'ils n'avaient pas encore, avant la chute, le péché originel. Les conséquences du péché, pour eux-mêmes et aussi pour nous, on peut les résumer par deux propositions. Ils ont été spoliés dans les dons gratuits de Dieu et ils ont été blessés dans leur nature, dans cette nature humaine qu'ils avaient reçue de Dieu et qui avait été élevée dès le début pour eux dans l'état surnaturel de la grâce. Ils vont donc perdre par ce péché originel la grâce divine. Ils étaient enfants de Dieu, saints, et cette grâce n'était pas due à la nature humaine. C'était quelque chose de purement gratuit. Mais on dira, oui, mais il l'avait dès le début. C'est vrai. Mais c'est-à-dire que dans le fait d'être un homme, d'être composé d'une âme et d'un corps, il n'y avait aucune exigence à avoir la grâce. C'était vraiment un surcroît de dons que Dieu avait fait. Dieu aurait très bien pu faire l'homme uniquement dans l'ordre de la nature. Et ça n'aurait pas été absurde. Parce que, je dirais, c'est justement un peu l'aspect de la nature qui est important de comprendre, c'est que Dieu se doit à lui-même de créer des êtres cohérents. Dieu ne peut pas créer un être sans lui donner ce qui lui est nécessaire pour vivre selon ce qu'il est. Parce qu'alors Dieu ne serait pas cohérent. Il ne serait pas Dieu parce qu'il ne serait pas parfait. Donc il y a cette exigence de donner aux êtres qu'il a faits, à l'homme, ce qui est nécessaire à leur nature. Un exemple peut encore illustrer cela, peut-être, c'est le rapport des enfants vis-à-vis des parents. Quand les parents donnent la vie à des enfants, eh bien, ils doivent être cohérents avec eux-mêmes. Et par le fait même qu'ils donnent la vie, ils s'engagent à fournir à l'enfant qui naît tout ce dont il aura besoin pour atteindre à la perfection de l'être humain, pour devenir un homme parfait. Les parents ont aussi du devoir vis-à-vis de leurs enfants en raison de Dieu. C'est exactement le contraire de ce qu'on appelle les droits de l'enfant, où on dit que l'enfant a droit à telle chose, l'enfant a des droits sur ses parents. Non, l'enfant n'a pas de droits sur ses parents, il a tout reçu d'eux, au moins dans l'ordre naturel. Mais les parents, eux, sont tenus, vis-à-vis d'eux-mêmes, à donner à l'enfant ce qui est nécessaire. Eh bien, Dieu, c'est un peu pareil, il est tenu vis-à-vis de lui-même de donner à sa créature ce qui lui est nécessaire. Et la grâce de Dieu n'était pas nécessaire à l'être humain. Cette grâce, eh bien, par le péché, ils vont la perdre. Ils vont devenir ennemis de Dieu. Et par le fait même, Adam et Ève ne pourront plus retourner à l'état de grâce par eux-mêmes. C'est un don surnaturel qu'on ne peut pas acquérir soi-même, qui dépasse infiniment notre nature. Dieu leur a donné, ils l'ont perdu. Ils n'ont plus cette capacité de retrouver l'amitié de Dieu, de retrouver la grâce. L'homme passe ainsi définitivement sous le pouvoir de Satan. C'est la conséquence du péché. Et pour être réélevé à la grâce, il faudra que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, donne de nouveau la grâce à l'homme. Ils perdent donc la grâce, mais ils perdent aussi ce qu'on appelle les dons préternaturels. Ce sont des dons gratuits qui ne sont pas surnaturels, qui ne sont pas en dehors de tout l'ordre naturel, mais qui n'étaient pas requis à la nature humaine. Dieu leur avait donné pour que leur vie soit meilleure. C'est d'abord l'intégrité, c'est-à-dire cette soumission de tous les sens à la raison. On voit aujourd'hui les passions qui s'agitent en nous et on a du mal à les diriger. Adam et Ève avaient ce commandement parfait sur tout leur corps. Second privilège était l'immortalité. Ils ne devaient pas mourir, mais ils devaient aller passer directement de cette vie au ciel. Il y avait l'impassibilité, c'est-à-dire cette incapacité de ressentir la douleur ou la misère. Et ils avaient enfin la science infuse qui leur permettait de savoir tout ce qui leur était nécessaire ou utile à leur vie. Sans doute ce dernier privilège n'aurait pas été transmis à leurs descendants, mais il fallait que le premier homme ait la science requise. On voit que le premier homme était loin d'être un primitif ou un sauvage, comme nous le dit. Adam et Ève étaient des gens très « civilisés », entre guillemets. Ils avaient reçu beaucoup de Dieu. Et d'ailleurs, ce mythe du sauvage primitif, si l'on regarde bien la réalité, le sauvage n'est pas un primitif, mais plutôt un peuple qui a tombé dans la déliquescence, dont la culture a dégénéré pour se retrouver vraiment en bas de l'échelle. Et ce n'est pas les peuples les premiers, mais plutôt les derniers, d'une certaine manière. Ces dons étant gratuits, grâce divine et dons préternaturels, eh bien, Dieu peut en priver l'homme sans commettre aucune injustice. Et on le voit, Dieu avait dit à Adam et Ève, « Si vous mangez du fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal, vous mourrez de mort. » Mort double, mort spirituelle, privation de la grâce, et mort corporelle. Ce que perdent encore nos premiers parents par ce péché, c'est l'innocence. Donc c'est là le premier aspect du péché. Et Adam et Ève ayant perdu ces dons gratuits, eh bien ils ne peuvent plus les transmettre à leur descendance. Et nous-mêmes, nous sommes privés de la grâce en naissant, nous sommes aussi privés de l'immortalité, nous sommes soumis à la souffrance. Et nous devons étudier péniblement pour acquérir un peu de science. Mais en plus de cela, l'homme, par le péché originel, a été blessé au plus profond de sa nature. C'est-à-dire qu'il y a en nous, et on s'en rend compte, il n'y a qu'à avoir un enfant, une inclination vers le mal. Ce que les théologiens appellent le fomes peccati, le foyer du péché. Ce qu'on appelle encore la concupiscence. Orgueil de la vie, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux. Donc l'orgueil, tous les désirs sensibles, la gourmandise, paresse, sensualité, concupiscence des yeux, c'est ce désir de posséder, d'amasser. Et on sent, au plus profond de nous-mêmes, ces inclinations mauvaises. Cette concupiscence, notons-le, n'est pas un péché, proprement dit, mais une inclination vers le péché. Et Adam et Ève ressentent immédiatement après leur faute cette concupiscence. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. Jusque-là, ils n'en ressentaient aucun trouble. Mais immédiatement après la faute, ils sentent ce trouble, car leur passion, le désir sensuel, le désir du plaisir, en eux s'éveille. Et c'est pour éteindre un peu ce feu qu'ils ressentent le besoin de se vêtir. La conséquence pratique pour aujourd'hui, c'est que le vêtement n'est pas d'abord fait pour protéger du froid, mais avant tout pour nous protéger de cette concupiscence. Et la règle première du vêtement, c'est donc la décence, de ne pas troubler l'autre ou le prochain. Et c'est ça qui est la règle principale, la règle absolue, plus à la limite que des conséquences pratiques. Dans certaines régions, on a un peu la tendance de la morale du centimètre, tant de centimètres, c'est beaucoup plus, ça a son importance aussi, ne nions pas la chose, c'est beaucoup plus l'aspect général, ne pas chercher à exciter chez l'autre, voyez, ce désir. Et ce sens de la pudeur, eh bien, c'est dès l'enfance, dès le premier âge, qu'on le donnera à l'enfant. S'il est habitué dès le début à être vêtu normalement, convenablement, à ne pas traîner à moitié habillé, eh bien, il sera protégé. Il aura en lui ce sens de ce qui convient et de ce qui ne convient pas, et ça protégera beaucoup sa pureté. Donc, on voit, pour nous, nous avons donc ce péché originel, qui est transmis, comme disent les théologiens, per viam semini, c'est-à-dire par la voie de la semence. Et tout homme, tout être humain, en est atteint. C'est une vérité de foi qui a été définie par le Concile de Trente. Cette universalité du péché originel. Si quelqu'un affirme que la prévarication d'Adam n'a nuit qu'à lui seul et non à ses descendances, et qu'il a perdu la sainteté et la justice reçues de Dieu pour lui seul, et non aussi pour nous, ou que, souillé par le péché de désobéissance, il n'a transmis que la mort et les punitions du corps à tout le genre humain, mais non pas le péché qui est la mort de l'âme, qu'il soit anathème. Donc c'est hérétique de nier ce péché originel. Le Concile de Trente, cependant, précise que dans cette définition, il n'entend pas parler de la très sainte Vierge Marie. Cependant, ce même Saint Concile déclare qu'il n'est pas dans son intention de comprendre dans ce décret, où il est traité du péché originel, la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais que l'on doit observer les constitutions du pape Sixte IV, d'heureuse mémoire, etc. Donc Sixte IV qui encourageait la dévotion à Marie Immaculée dans sa conception. Alors, maintenant, voyons ce que cela signifie de dire que Marie est exempte du péché originel. Cela veut dire que dès sa conception, dès que sa mère, Sainte Anne, qui a conçu par son époux, Saint Joachim, cet enfant, Marie, dès que Marie a été conçue dans le sein de sa mère, Sainte Anne, elle était sans la tache du péché originel, dès le premier instant. Être exempte du péché, de tout péché, cela signifie donc que Marie, à l'inverse, de manière positive, avait la justice intérieure, parfaitement juste, parfaitement sainte. Elle avait la grâce sanctifiante, elle était fille de Dieu, elle était dans l'amitié divine. Qu'en est-il des autres conséquences du péché ? Donc ce qui est de foi, c'est que Marie n'a eu aucun péché, aucune tache sur elle. Tout d'abord la mort, très probablement la très sainte Vierge Marie est morte. Après, bien sûr, elle a été portée au ciel avec son corps, lors de l'Assomption. Mais elle a probablement connu la mort, comme son divin fils Jésus-Christ. Mais la mort n'est pas le péché. Marie, et c'est cela est certain, a connu la souffrance. Au pied de la croix, elle a ressenti les douleurs de voir son fils mourir. Pour ce qui était des douleurs de l'enfantement, bien sûr, elle ne l'a pas eu, puisque l'enfant Dieu est née d'une manière mystérieuse et qu'elle est restée vierge avant, pendant et après l'enfantement. De la même manière, Marie n'a pas eu cette science infuse, même si Dieu lui a donné des lumières célestes. Car manquer de science n'est pas un péché. En revanche, il est probable qu'elle n'avait pas en elle la concupiscence, c'est-à-dire cet attrait vers le mal. Ou alors, comme certains théologiens le disent, mais c'est peu probable, elle aurait pu l'avoir, mais une concupiscence qui aurait été liée, c'est-à-dire qui n'aurait pas pu s'exercer. Mais je pense qu'il vaut mieux dire, avec saint Thomas d'Aquin, que Marie, étant constituée dans la justice universelle originelle, elle n'a en elle rien, absolument rien, de cette inclination vers le mal. Et le pape, quand il définit l'Immaculée Conception, dit que Marie était immaculée dès le premier instant de sa conception. C'est-à-dire, on distingue la conception active et la conception passive. C'est un peu abstrait peut-être. Conception active, c'est la rencontre de Sainte Anne et de Saint Joachim pour donner naissance à l'enfant. Conception passive, c'est le moment où justement a existé l'être humain. On parle de la fécondation, où se prouve ce premier œuf humain. Alors, est-ce à ce moment-là que Marie a été immaculée ou plus tard ? Enfin, ce qui est sûr, c'est que dès qu'il y a eu une âme dans cette matière donnée par les parents, dès que Dieu a infusé l'âme, on ne sait pas exactement quand Dieu infuse l'âme, aujourd'hui on pense que c'est dès le premier instant, ça peut être plus tard, l'Église ne définit rien en ce sujet-là. Mais dès que Marie a une âme humaine, cette âme humaine est immaculée. Et Marie est immaculée par mode de préservation. C'est-à-dire que cette tâche que tout le monde reçoit, bien Marie en est préservée. Saint Bonaventure envisage la possibilité d'une telle préservation. Et il dit « Chaque homme en naissant est poussé dans le précipice du péché. » Et Marie, par un privilège spécial, a été préservée, retenue au bord de ce précipice. Et si elle a cette grâce, c'est en vue des mérites de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est par les mérites de Jésus-Christ qui lui sont appliqués par avance que Marie est rachetée. Marie fait partie des rachetés. Elle a été rachetée par Jésus-Christ. Et cela est nécessaire parce que la rédemption est universelle. Aucun homme ne peut être sauvé depuis la faute originelle en dehors de Jésus-Christ. On a là la réponse justement à une objection qu'ont fait certains auteurs, surtout au XIIIe siècle, c'est le cas de saint Bonaventure ou saint Thomas d'Aquin, à l'Immaculée Conception. Il disait, admettre l'Immaculée Conception, c'est d'une certaine manière admettre que la rédemption ait lieu avant. Donc qu'il y ait des êtres qui puissent être sauvés en dehors de Jésus-Christ. Eh bien non, Marie a été sauvée par son divin Fils. On peut dire que le Père, en engendrant son Fils, lors de l'incarnation, en voyant Marie, eh bien, voyait aussi son Fils. Et il voulait que la mère de son Fils, le Père, Dieu le Père, est Père par nature de la divinité, Marie est mère de l'humanité, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, il voulait qu'il soit parfaitement pur. Et c'est une vérité donc absolument certaine. Et comme l'Église le définit de manière dogmatique, cela signifie que cette vérité est contenue dans la révélation. Ce n'est pas une invention du pape Pie IX ou des théologiens du XIXe siècle. Pour pouvoir définir cette vérité, il faut que l'Église ait toujours cru et enseigné. Que cette vérité soit contenue dans l'Écriture sainte et dans la tradition ou dans l'une des deux sources de la révélation. Autrement, bien sûr, l'Église ne pourrait pas ajouter quelque chose. Il s'agit donc d'une vérité révélée divinement par Dieu. C'est pourquoi la nier est hérétique. Voyons maintenant un peu dans quel endroit de la tradition se trouve cette vérité. Et ça éclairera encore davantage un peu ce dogme magnifique. Vous avez vu, je pense, avec M. l'abbé Jacquot, qu'il y a deux sources à la révélation, l'Écriture sainte et la tradition. C'était la première conférence du cycle. Et la tradition est même antérieure à l'Écriture sainte, puisque c'est par la tradition qu'on sait que tel ou tel livre de la Bible sont révélés. Ce qu'on appelle le canon des Écritures, la liste des livres révélés, nous est donnée par la tradition. Et cette révélation, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu qui nous a été transmis par la synagogue tout d'abord, qui était la véritable religion jusqu'à la venue de notre Seigneur, puis par l'Église ensuite, cette révélation a été close avec la mort du dernier apôtre. C'est-à-dire que quand l'apôtre Saint Jean meurt, rien de plus ne peut être ajouté. Les apôtres ont reçu de notre Seigneur tout ce qui était nécessaire pour le salut des hommes, pour le bien de l'Église. Et ils ont tout donné de leur vivant. Voilà pourquoi on ne peut pas concevoir un nouveau dogme. C'est une absurdité. L'Église, quand elle définit une vérité, comme celle-là, ou comme l'Assomption, ou d'autres vérités, l'infaillibilité pontificale en 1870, l'Église se contente de tirer des vérités qui sont dans l'Écriture sainte et la tradition, contenues d'une manière implicite ou explicite. Et l'occasion de ces définitions, ce sont souvent les hérésies ou les erreurs qui attaquent la vérité chrétienne. Pour défendre la vérité, l'Église réaffirme nettement, en des termes très précis, ses vérités de foi. L'Immaculée Conception n'est donc nullement une vérité, mais vraiment cette continuation de l'enseignement. C'est ce que dit le pape dans l'encyclique. Cette doctrine de l'Immaculée Conception, de tout temps, l'Église ne l'a possédée que comme une doctrine reçue des anciens et des pères, et revêtue des caractères d'une doctrine révélée. Etc. Les plus illustres monuments de l'Église d'Orient et d'Occident, les plus vénérables à leur antiquité, en sont le témoignage irrécusable. Toujours attentive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reçu le dépôt, l'Église de Jésus-Christ n'y change jamais rien, n'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien, mais portant un regard très attentif et fidèle sur les enseignements anciens, elle recueille tout ce que l'Antiquité y a mis, tout ce que la foi des Pères y a semé. Elle s'applique à le polir, à en perfectionner la formule, de manière que ces anciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évidence, la lumière, la distinction, tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur caractère propre. En un mot, de façon qu'il se développe à l'intérieur d'un même contenu objectif et qu'il demeure toujours dans la même vérité, dans le même sens, dans la même pensée. C'est ce qu'on appelle le développement homogène du dogme. C'est simplement, on donne une formulation précise, nette, d'une vérité qui est contenue dans la tradition. Les sources de ce dogme, eh bien, sont l'Écriture sainte et la tradition. Il y a deux sources principales dans l'Écriture sainte, ce qu'on appelle le protévangile, donc le récit du péché originel, la suite, ou quand Dieu va condamner le serpent. Après le péché, donc Yahvé descend dans le jardin et va interroger Adam et Ève. Puisque tu as fait cela, Dieu s'adresse au serpent qui a causé la tentation, la chute d'Ève et d'Adam. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est la condamnation de l'animal qui avait servi à Satan pour tenter l'homme. Et maintenant, c'est la condamnation du démon lui-même. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Là, déjà, on voit la promesse du Rédempteur dans cette phrase. Dès la chute, Dieu est vraiment bon. Il promet à nos premiers parents un sauveur. Voilà pourquoi on appelle ce passage le protévangile. C'est vraiment déjà l'évangile avant l'évangile, la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'homme pourra être racheté par Dieu. Sera racheté par Dieu. Dans la seconde phrase, il est dit « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » En fait, si on prend le texte grec, d'être une bonne traduction, ce serait plutôt dire « Et celui-ci t'écrasera la tête. » C'est-à-dire la descendance de la femme, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'Église ne définit pas ce dogme sur ce passage-là, mais sur le premier. Sur l'inimitié qu'il y a entre toi et la femme. Qu'est-ce que cela signifie ? Il y a une opposition totale entre Dieu et Satan. Et un parallèle entre la manière dont Satan a fait tomber l'homme et la manière dont Dieu rachètera l'homme. C'est très beau cette vérité. On voit vraiment, c'est symétrique. Il y a d'un côté l'ancienne Ève qui nous a conduits dans le péché et la nouvelle Ève qui nous a donné la vie. Saint Jérôme le dit, la mort par Ève, la vie par Marie. Il y a aussi deux couples. Il y a Adam et Ève, le couple des vaincus, Notre-Dame et Notre-Seigneur, celui des vainqueurs. Et voyons un peu ce parallélisme. Comment Ève est tombée ? C'est un ange déchu, qui va voir Ève et la tente, l'invite à prendre du fruit défendu. Et Ève succombe, c'est la mort pour l'humanité, c'est le péché, la perte de la grâce. 4000 ans plus tard, qu'a-t-on ? Que voit-on ? Un autre ange, lui, un archange, l'archange Gabriel, qui vient visiter une vierge, qui est sans tache, sainte. Marie est déjà pleine de grâce dès sa conception, et qui lui propose l'obéissance à Dieu. Marie répond « Fiat », répond « Oui ». Et de ce fiat, bien, va venir le fruit de ses entrailles, un fruit saint, le rachat. On voit ce parallèle. C'est encore cet autre parallèle que fait saint Paul. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Par un homme, un autre homme, l'humanité a été racheté. C'est encore les deux arbres. L'arbre de la chute, l'arbre de la science du bien et du mal, l'arbre de la désobéissance. De l'autre côté, l'arbre de l'obéissance, l'arbre de la croix. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est de cette opposition totale, finalement cette inimitié entre les deux, que l'on peut tirer cette vérité de l'Immaculée Conception. S'il y a une inimitié absolue, cela veut dire qu'il n'y a absolument rien de commun entre Notre-Dame et Satan. Satan n'a eu à aucun instant un pouvoir sur Marie. Voilà donc pour comment on peut tirer à la fois l'Écriture sainte, donc de ce passage, mais aussi la tradition des pères de l'Église qui montre bien cette opposition cette lutte, comment on peut se trouve cette vérité, ce dogme de l'Immaculée Conception. L'autre passage où est contenue cette vérité, c'est la salutation angélique. L'archange Gabriel qui vient vers Notre-Dame et lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » Et Origène écrit à ce sujet qu'il n'a jamais lu une telle salutation ailleurs dans l'Écriture. Puisque l'ange salue Marie en des termes nouveaux, que je n'ai pu trouver dans toute l'Écriture, il faut en dire quelque chose. Cette expression, c'est-à-dire « pleine de grâce », je ne me rappelle pas en effet l'avoir lue dans aucun autre endroit des saints livres. Par ailleurs, ce n'est pas à un homme que sont adressées ces paroles, c'est une salutation exclusivement réservée à Marie. Et saint Ambroise développe la même idée. Ce terme « pleine de grâce » est unique dans l'histoire, uniquement pour Marie. Cela signifie donc un privilège unique. Elle seule a été pleine de grâce comme l'a été Notre-Dame. Et il y a d'autres hommes, d'autres êtres humains qui ont été purifiés du péché originel. Et avant leur naissance même, c'est le cas de saint Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle saint Jean-Baptiste est fêté deux fois. Il y a la décapitation de saint Jean-Baptiste, sa mort. On le fête à sa mort comme tous les saints, puisque la mort d'un saint est appelée en latin le dies natalis, le jour de sa naissance à la gloire du ciel. Mais pour saint Jean-Baptiste, on fête aussi sa naissance, car quand saint Jean-Baptiste est né, il était déjà saint. Il avait été purifié du péché originel avant sa naissance par notre Seigneur. Lors de la visitation, Élisabeth dit « Dès que j'ai entendu votre salutation, dit-elle en parlant à Marie, mon enfant a tressailli dans mon sein. » Et c'est Jésus-Christ qui, du sein de la très sainte Vierge Marie, a purifié Jean-Baptiste, qui n'était pas encore né. Donc, pour Marie, être pleine de grâce, ce n'est pas ce privilège d'être purifiée avant sa naissance. Jean-Baptiste a eu le péché originel, mais il en était purifié au moment de la visitation. C'est donc davantage pleine de grâce. Cela veut dire que Marie a été toujours dans la grâce et dans l'amitié avec Dieu. De cette manière, on peut dire que le dogme de l'Immaculée Conception est contenu implicitement dans cette salutation de l'archange Gabriel. Et c'est confirmé encore par ce que dira la sainte Élisabeth. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » Et cette bénédiction de la très sainte Vierge Marie, on le voit, est parallèle à la bénédiction de Jésus-Christ. C'est donc une même bénédiction, une même sainteté primitive, par le même degré bien sûr, parce que Jésus-Christ est Dieu, Marie est pleine de grâce, mais elle n'est pas Dieu. Mais c'est un peu cette même bénédiction que l'on retrouve dans les deux, et qui est donnée à Marie en raison justement de la lutte contre le serpent. Pour vaincre le serpent, pour être mère de Dieu, il convenait que Marie soit pleine de grâce. Il y a encore d'autres textes qu'on peut invoquer en faveur de ce privilège, mais qui ne sont pas aussi probants. Nous avons beaucoup de textes qu'on appelle Sapientio, tirés du livre des Proverbes, du livre de la Sagesse, du Cantique des Cantiques. Texte très beau d'ailleurs, mais qui finalement s'adresse davantage à la sagesse incarnée, c'est-à-dire à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse divine qui a été là pour construire le monde. Mais sur ces textes-là, on peut aussi les appliquer à Notre-Dame. C'est ce que fait l'Église très souvent. Ces textes qu'on lit aux messes de la Sainte Vierge, elle était dans l'Ancien Testament. Dans le livre des Cantiques, par exemple, « Comme un lys au milieu des épines, telle est ma bien-aimée parmi les jeunes filles. Que vous êtes belle, mon amie, c'est tiré du Cantique des Cantiques. Que vous êtes toute belle, mon amie. Il n'y a point de tache en vous. C'est un jardin fermé que ma sœur fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, un bosquet où croissent les grenades avec les fruits les plus exquis. Ouvrez-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, mon Immaculée. Mais comme ces textes, il y en a d'autres encore très beaux, ne s'appliquent pas directement à la très Sainte Vierge Marie, mais d'une manière indirecte, c'est-à-dire par allégorie, on les applique à Notre-Dame, eh bien, ils ne peuvent pas prouver l'Immaculée Conception. Ils peuvent simplement, à la limite, c'est une preuve supplémentaire, mais qui n'est pas suffisante à elle seule pour prouver le dogme. Il y a encore cet autre passage étonnant que l'on trouve dans l'Apocalypse, l'épisode de la femme et du dragon. Un grand signe est paru dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut dans le ciel, un grand dragon roux qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, et il les jetait sur la terre. Et le dragon s'éteint la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son fruit dès qu'elle l'aurait enfanté. Et elle mit au monde un enfant mâle qui devait régir toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en sa retraite où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, etc. Alors, dans cette prophétie, on voit, d'une part, l'Immaculée Conception. Très souvent, même les artistes ont représenté Marie Immaculée, avec la lune sous les pieds et la tête couronnée des 12 étoiles. Mais dans cette prophétie, on peut voir plutôt l'Église, car celle qui est enceinte dans les douleurs de l'enfantement, c'est l'Église qui engendre à Dieu des enfants, qui engendre des saints. Et par d'autres éléments, on peut voir aussi Notre-Dame, puisque Notre-Dame est mère de l'Église. Elle est aussi mère de la divine grâce. Aussi, le pape Saint-Pie X, sur ce texte, dit qu'on peut en tirer la preuve que Marie est mère spirituelle de tous les hommes. C'est la maternité spirituelle de Marie. Elle est vraiment notre mère. C'est ce que Jésus-Christ dit à Saint-Jean et à nous tous. Fils, voici ta mère. Marie, vraiment, dans l'ordre de la grâce, nous donne cela. Mais ça ne prouve pas vraiment l'Immaculée Conception. Voilà donc un peu quelles sont les sources de ce dogme. Pour quelles raisons, maintenant, essayons de voir pourquoi Dieu a pensé qu'il fallait que sa mère soit sainte, soit sans tache dès le début. La raison profonde, c'est que Marie devait être Mère de Dieu. Et comme Mère de Dieu, comme celle qui devait collaborer à notre rédemption d'une manière très intime, il fallait qu'elle soit sans le péché. Mais aussi, et le pape Pie IX en parle, c'est ce rapport spécial que Marie a avec la très Sainte Trinité. Et plus quelqu'un est proche d'une source, plus il se sent les effets de cette source. Plus je m'approche du feu, plus je me réchauffe. Plus on s'approche de Dieu, plus on est saint, sanctifié. Et personne plus que Marie ne s'est approché de Dieu. Tout d'abord vis-à-vis du Père, c'est Dieu le Père qui donne à Marie son Fils unique. Et l'enfant que Marie engendre, à qui elle donnera naissance, la nuit de Noël, c'est son propre Fils. Mais c'est aussi le Fils de Dieu. Jésus-Christ est donc l'unique et commun Fils de Dieu et de la Vierge, selon la divinité d'un côté, selon l'humanité de l'autre. Mais réellement, Jésus-Christ est un Fils unique et commun. C'est vraiment admirable de penser qu'une créature humaine peut être, d'une certaine manière, mère avec Dieu qui est Père, dans l'ordre de la divinité ou de l'humanité, bien sûr, mais quand même. Et le Père aime le Fils comme lui-même et ne veut pour lui eh bien, que le bien. Et ce Fils que Marie met au monde, eh bien, c'est l'égal du Père. On voit cette relation déjà de Notre-Dame avec le Père. On a la même chose avec le Fils. Le Verbe de Dieu, sous la personne de la Sainte Trinité, a choisi Marie pour être sa mère substantiellement, selon l'humanité, pour lui donner un corps. Et enfin, le Saint-Esprit, eh bien, c'est par son action miraculeuse, mystérieuse, que le Verbe est conçu en Marie. Le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre, dit l'archange Gabriel, et l'enfant qui naîtra de vous sera saint. Donc c'est principalement parce que Marie devait être mère de Dieu qu'elle a été préservée du péché. Pour cette même raison de proximité vis-à-vis de Dieu, certains auteurs estiment que Saint Joseph a été non pas immaculé de sa conception, ça s'est réservé à Notre-Dame et elle seule a eu ce privilège, mais que Saint Joseph a été purifié du péché originel, soit avant sa naissance, ou alors peut-être lors de son mariage avec la très sainte Vierge Marie, ou lors de la conception de l'enfant Dieu, de façon que le Père nourricier, le Père putatif, c'est-à-dire apparent de Dieu, de Jésus-Christ, soit lui aussi saint. Quoi qu'il en soit, l'Église n'a rien défini en ce domaine-là. On pourrait aussi aborder, ça serait un petit peu long, l'enseignement de la tradition au cours des âges. Nous passerons très rapidement. Mais ce qu'on voit dans les premiers siècles de l'Église, c'est, comme on le disait, cette croyance implicite dans le dogme, quand on affirmait que Marie était la nouvelle Ève, celle par qui, avec Jésus-Christ, nous sauvait. Et on a eu ensuite, au XIe, XIIIe siècle, une grande controverse. Certains auteurs, surtout les scolastiques, même saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, saint Albert le Grand, n'ont pas rejeté le dogme, mais y étaient plutôt défavorables. Parce que, eh bien, ils voyaient là une négation du péché originel universel, et ils craignaient qu'en affirmant cela, en donnant cette dignité à Marie, eh bien, on retire une part de dignité à notre Seigneur. Il y a eu une première définition du dogme, en 1438, entre guillemets, par l'antipape Benoît XII, appelé aussi Pierre de Lune, lors du concile de Bâle. C'est un concile qui n'était pas œcuménique, un concile hors de l'Église, lors du grand schisme, quand l'Église se retrouvait avec deux puis trois papes en même temps, enfin il n'y en avait qu'un de vrai. Ça s'est passé comme ça, c'est qu'après la mort du pape, on s'est réunis un peu rapidement pour élire un nouveau pape, tous les cardinaux n'étaient pas là, on en élit un, et puis on se dit, ben, est-ce que c'était vraiment valide, on n'avait pas attendu les autres. Alors par sécurité, on en élit un nouveau, qu'on se trouve avec deux, puis qu'on en avait deux bien embêtés, ben on se dit plus simple, c'est tout, les deux autres sont pas bons, on en fait un troisième. Et c'était une situation assez impossible. D'ailleurs, l'antipape Pierre de Lune, Benoît XII, était soutenu par saint Vincent Ferrier, alors que le pape légitime, lui, était soutenu par sainte Catherine de Sienne. Il y a un peu le mystère, les mystères de Dieu. Et un saint Vincent Ferrier passait son temps à faire des miracles, plusieurs par jour. C'était quelque chose d'étonnant. Il se disait lui-même l'ange de l'Apocalypse. Tout cela pour se dire que finalement la question du pape, c'est des vacantistes, pape, finalement. On peut sanctifier, même si on se trompait sur la question, à la limite, de toute façon, on n'a pas autorité pour trancher, puisque c'est le concile de Florence qui dira ensuite clairement qu'aucun concile ne peut juger le pape, car le concile n'est pas au-dessus du pape. Donc, cela peu importe. Ça, c'est pour la vie d'histoire. Et donc, à partir du XIVe, XVe siècle, on voit cette vérité qui, de l'Immaculée Conception, qui est affirmée de plus en plus clairement. On trouve justement aussi des fêtes liturgiques de cette conception de Notre-Dame à une époque très ancienne. C'est ainsi, au VIIe siècle, on trouve la fête, la conception sainte de la grand-mère de Dieu, Anne. C'est-à-dire la grand-mère de Dieu, sainte Anne, et oui. Parce que Marie était mère de Dieu, donc la mère de Notre-Dame était la grand-mère de Dieu. Eh bien, a eu une conception sainte. Donc, Marie, dans sa conception, était sainte. Et c'est vers au 7e, 8e siècle qu'on trouve cette fête. On trouve aussi des traces de cette fête, c'est en Orient, en Occident, vers le 7e siècle. IXe siècle, on trouve au 9 décembre une fête de la conception de Sainte Marie Vierge. Donc encore cela. Et au IXe siècle, on trouve en Irlande la même fête. C'est intéressant, c'est quand même pas le même endroit. Naples et l'Irlande, il y a quand même une certaine distance. Et on trouve donc cette tradition des deux côtés. Au XIe siècle, on a deux calendriers, donc des églises anglaises, qui fêtent au 8 décembre la conception de Sainte Marie Vierge. Et du XIe siècle, on a même des textes du pontifical, des textes même de cette messe. Et ensuite, tout au long de l'histoire, eh bien, c'est une fête qui va se répandre dans l'Église, notamment avec le pape Sixte IV, qui répandra et favorisera cette fête, et même qui condamnera ceux qui prétendent que célébrer la fête de l'Immaculée Conception, ou prêcher en sa faveur, voire même assister à une messe de l'Immaculée Conception, serait un péché mortel, parce que ce serait une erreur, d'après certains. Et le pape Sixte IV condamne fermement cela. Il condamne d'ailleurs en même temps ceux qui, à l'inverse, déclaraient hérétiques ceux qui sont contre l'Immaculée Conception, parce qu'il dit, eh bien, l'Église n'a pas tranché, donc qu'on n'utilise pas les termes d'hérétique. Tant que l'Église n'a rien dit, on peut avoir une certaine liberté dans les discussions théologiques, mais ne rien affirmer. De tout cela, il sort donc que, eh bien, ce dogme est contenu dans la tradition. Voyons maintenant, ce sera un peu la conclusion, les circonstances politiques de cette définition. Définie en 1854, c'est une période extrêmement troublée pour l'Église. Depuis de nombreuses années, il y a cette révolution qui lutte contre l'Église. Un des premiers actes officiels, je dirais vraiment marquants, a été la Révolution française, mais qui a été précédé en France notamment, mais dans tous les pays, par ce qu'on appelle l'esprit des Lumières, l'esprit voltairien, qui a lutté contre l'Église, ce rationalisme, ce matérialisme, ce naturalisme. On nie finalement toute vérité surnaturelle. Il y a cette affirmation du bon sauvage avec Rousseau, mais toute cette équipe de philosophes part du mythe du bon sauvage pour rétablir une nouvelle humanité. Mythe du bon sauvage qui est la négation du péché originel. Si l'homme est naturellement bon, c'est qu'il n'a pas le péché originel. Négation donc d'Adam et Ève. Pour l'Église, ça a été aussi beaucoup de luttes. En France, il y a eu aussi le gallicanisme, cette affirmation donc d'une Église nationale, ou le jansénisme, qui a lutté contre l'autorité de Rome. On avait aussi le joséphisme en Autriche. Dans chaque État, déjà, on sentait cette volonté du pouvoir politique de faire de l'Église une Église nationale. La Révolution française elle-même, eh bien, par la Constitution civile du clergé, voudra faire une Église nationale. Négation donc du pouvoir de Rome. Il y a le pape VI qui est emmené en exil par Napoléon. Et le début du XIXe siècle est marqué par ce qu'on appelle le mouvement du Risorgimento, sous ce mouvement en vue de l'unité italienne. Pie IX d'ailleurs était assez favorable à cette unité italienne ou cette liberté de l'Italie, puisqu'une partie d'ailleurs de l'Italie avait été reprise en 1815 par l'Autriche-Hongrie. Et le pape Pie IX trouvait que ça aurait été bien. Mais la Révolution va se mettre dans tout ce mouvement et profiter de ce mouvement d'unité italienne pour rejeter Rome. Et c'est à la faveur de la Révolution des Trois Glorieuses en 1848, des journées de juillet 1848, de cette Révolution en France, qu'à Rome va se déclencher aussi une révolution contre le pape. On voudra forcer le pape à déclarer la guerre à l'Autriche et à prendre un peu la tête de la révolution. Et Pie IX ne peut pas, bien sûr. Les révolutionnaires vont donc en profiter, mettre de plus en plus de troubles à Rome. Ils vont même assassiner, poignarder à l'entrée de ce qu'on appelait le Parlement, je dirais donc le représentant du pape, celui qui était le chef du gouvernement du pape. Et ça sera le signal de cette révolte. Et finalement, le 24 novembre, le pape Pie IX doit quitter les États pontificaux en 1848 et se réfugier dans le royaume de Naples, à Gaète. Et c'est de là que le 2 février 1849, le pape Pie IX va écrire à tous les évêques de la chrétienté pour leur ordonner de faire une enquête sur le culte et sur la croyance en l'Immaculée Conception. C'est un peu donc le premier acte. Déjà, son prédécesseur avait pris des mesures en faveur de ce dogme, mais là, vraiment, c'est ce qui enclenche la définition. Le pouvoir temporal du pape sera finalement rétabli grâce à l'intervention française. Ce qui se passe, c'est que Napoléon Bonaparte était à ce moment-là en pleine élection, et pour être élu, il promet de rétablir la souveraineté temporelle du pape sur ses états. Et il est élu. Donc la France doit intervenir avec 4 autres pays. D'ailleurs, le gouvernement français rétablira le pouvoir du pape vraiment de mauvais gré. Finalement, le pape Pie IX peut rentrer de nouveau à Rome en 1850. Et toutes ces circonstances montrent l'opportunité du dogme. Tout d'abord, ce rationalisme qui persécute l'Église, qui refuse finalement le péché originel, la déchéance de la nature humaine, qui refuse l'ordre surnaturel. C'est cette théorie matérialiste des animaux-machines. Eh bien, face à cela, qu'est-ce qu'on affirme ? On affirme l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que tout homme a été conçu dans le péché originel et que seule Marie en a été préservée. C'est déjà cette réponse à l'hérésie, claire et nette. Affirmer même que Marie est l'Immaculée et qu'elle a été préservée par Jésus-Christ, par la rédemption, c'est affirmer la nécessité d'un rédempteur pour tous les hommes, que Jésus-Christ est le seul sauveur, qu'il doit, en conséquence, régner sur la société, et que l'Église, dont la mission a été contestée, dont le pouvoir est de plus en plus réduit, non seulement en Italie, mais partout en Europe, a une mission salvatrice que les États doivent respecter. Marie pleine de grâce, elle rappelle de l'ordre surnaturel. Il y a encore le fait de la définition. En 1854, le dogme de l'infaillibilité pontificale n'a pas encore été défini. Et s'est posé la question de la manière dont ce dogme allait être défini. Est-ce que le pape, après avoir consulté les évêques, le déclarait uni à eux, un peu à la manière d'un concile qui n'aurait pas été réuni, mais concile à distance, pareil, qui aurait été assuré par l'échange des lettres, ou est-ce qu'il le déclare seul, en vue de sa propre autorité ? Et après avoir consulté les évêques, les cardinaux, il y a eu une unanimité qui s'est déclarée. Bien, le pape, en vertu de son pouvoir, peut définir seul et par lui-même ce dogme. Et lors de la cérémonie, c'est le pape seul, à la demande des cardinaux, qui lira et définira cette vérité. Et ça sera là la réaffirmation du pouvoir pontifical universel sur toute l'Église, face au gallicanisme, qui affirmait la liberté, l'indépendance de l'Église gallicane, de l'Église de France, ou au joséphisme pour l'Autriche-Hongrie, ou encore au Portugal, ou dans tous les pays. On avait cet esprit-là. Et on réaffirme donc le pouvoir du pape. Et c'est très beau de voir comment l'Église, pour lutter contre ses erreurs, réaffirme ses vérités mariales. Ça avait été la même chose au 5e siècle, quand Arius, qui niait que Jésus-Christ était Dieu, a été condamné. Pour rejeter cette erreur, qu'a fait l'Église ? Elle a défini un dogme marial, que Marie était mère de Dieu. Et en affirmant cela, on affirmait que Jésus-Christ était vrai Dieu et vrai homme. Il n'y avait plus de négation possible. Parce que si Marie est mère de Dieu, elle est mère d'un homme qui est Dieu. D'où cette unité. Le pape Pie XII, plus proche de nous, le 1er novembre 1950, a agi de même. Quand il a défini l'Assomption de Notre-Dame, c'est un peu une réponse au matérialisme actuel, à l'évolutionnisme. C'est affirmer l'Assomption, c'est affirmer qu'il y a une vie après la mort, qu'il y aura la résurrection de la chair à la fin des temps, qu'il y a donc l'éternité. Et c'est vraiment la réponse aux erreurs de notre temps. Un dernier aspect, j'irai rapidement, puisque là, je suis déjà à la fin de la conférence. Dernier aspect, c'est les rapports de cette Immaculée Conception avec les apparitions mariales. qu'il y a eu à cette époque, au 19e et au début du 20e. Et la première de ces apparitions, c'est Lourdes. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception. À Lourdes, en 1858, la dame dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est d'ailleurs très beau cette scène. On voit la petite Bernadette répétant dans son patois du Pays Basque ces mots « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception » arrivant devant le bon curé Père Amal qui l'entendit « Je suis l'Immaculée Conception ». Il ne manque pas de se faire des bons, bien sûr. Il dit « Qu'est-ce que tu dis là ?» Et la petite lui explique. Et il l'interroge et il se rend compte que Bernadette ignorait le sens de ces mots. Et donc, elle n'avait pas pu inventer cela. Ça a été pour lui la preuve de la véracité de l'apparition. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que Marie ne se donne ce titre d'Immaculée Conception qu'après que l'Église l'ait définie, pas avant. Parce que une apparition privée, même reconnue par l'Église comme Lourdes, ne peut rien ajouter à la révélation. Il fallait donc que l'Église, premièrement, définisse Marie Immaculée, pour que Notre-Dame puisse ensuite se dire l'Immaculée Conception. L'inverse n'aurait pas été envisageable. Parce qu'en fait, une apparition privée, personne n'est tenu d'y croire. Quelqu'un qui ne croirait pas à Lourdes ou même à Fatima ne serait pas hérétique. Ce n'est pas très prudent, bien sûr, mais il n'y a aucune hérésie. Et quand l'Église reconnaît une de ses apparitions, elle dit simplement que dans l'apparition de Lourdes ou à Fatima, il n'y a rien de contraire à l'enseignement de l'Église. C'est uniquement cela. Parce qu'une apparition ne peut rien ajouter. Il y a encore Fatima, où Notre-Dame vient recommander la dévotion à son cœur immaculé. Et là encore, on retrouve cette même Immaculée Conception de Marie. Sous un autre aspect, la dévotion au cœur immaculé. En fait, Marie est honorable pleinement. Ce qu'on honore, c'est la personne de la très sainte Vierge Marie. Et on peut honorer finalement toutes les parties de sa personne. On peut honorer son cœur, on peut honorer ses mains, honorer sa tête, honorer ses pieds. Voilà. De la même manière pour notre Seigneur, si on honore la personne de Jésus-Christ, on peut honorer aussi l'un de ses membres ou honorer son cœur. Alors pourquoi honorer une partie spéciale, particulière de notre Seigneur ou de Notre-Dame? Eh bien, cette dévotion au cœur a un sens spécial. C'est la signification du cœur dans un être humain. On ne parle pas bien sûr ici du cœur physique, de ce cœur qui bat. Ce cœur-là est le symbole de la volonté. C'est le symbole de l'amour. Et quand on honore le Sacré-Cœur, on honore l'amour humain de Jésus-Christ pour l'humanité. C'est Jésus-Christ comme homme qui nous a aimés. Et c'est ce cœur qui a souffert du péché, qui a souffert pour nos péchés, qui a souffert de l'ingratitude des hommes. Eh bien, pour Notre-Dame, c'est la même chose. C'est ce cœur de Marie, cœur sans tache, cœur immaculé, volonté parfaitement sainte, âme pure de Marie, qui a aussi participé à notre rédemption, à notre salut. Au pied de la croix, elle était unie à Jésus-Christ pour nous racheter. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'invocation complète du cœur immaculé, c'est cœur douloureux et immaculé de Marie. Et c'est un cœur qui est douloureux parce qu'il est immaculé. Marie souffre, a souffert du péché. Déjà, par la passion de son fils, par toutes ses souffrances de Jésus-Christ, elle les a ressenties en elle-même. Et c'est la conséquence du péché. Et Marie, par son caractère immaculé, on l'a vu, est ennemie du péché. Il y a cette inimitié totale en elle. Et Marie ne peut pas supporter le péché. Elle en ressent donc cette douleur. Dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est donc la haine du péché, le refus du mal. C'est encore cette dévotion à Notre-Dame de cette douleur. Vous les connaissez, je pense. Première douleur de Marie, c'est la fuite en Égypte. Deuxième douleur, c'est le vieillard Siméon, lors de la présentation au temple, qui lui prédit ses douleurs. Un glaive douleur te percera le cœur. Troisième douleur de Notre-Dame, c'est Jésus perdu au temple. La quatrième, c'est le portement de la croix. Cinquième douleur, c'est Jésus qui meurt sur la croix pour nos péchés. Sixième, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Imaginez le cœur de cette mère tenant son fils mort. Et enfin, Septième douleur, c'est quand notre Seigneur est mis dans le tombeau. Vis-à-vis du péché aussi, Notre-Dame, eh bien, n'a qu'un désir aussi, l'aversion du péché. Et elle désire la conversion des hommes. En ce sens, elle est mère des âmes. Elle nous invite donc, en nous invitant à cette dévotion à son cœur immaculé, à fuir le péché, à réparer le péché, nos péchés, le péché du prochain. Elle nous invite encore à intercéder pour les pécheurs, à prier pour eux, à avoir vraiment ce zèle pour les âmes. Et on voit ça chez les enfants de Fatima, comment ils étaient zélés à faire des sacrifices pour sauver un pécheur. Le petit François qui se privait volontairement avec sa sœur et sa cousine de leur repas et le nez aux brebis ou aux pauvres. Parfois même, il ne prenait même pas d'eau pendant toute une journée. Alors qu'il fait chaud au Portugal, il faut imaginer ce que c'est, journée de 10 heures, sans rien manger, sans rien boire. Et le soir, quand il rentrait fatigué, sa maman lui disait « va te reposer ». Il disait « maman, c'est pour sauver une âme de l'enfer, si tu savais ». Eux avaient vraiment compris cette dévotion à l'Immaculée Conception, au cœur immaculé de Marie. Et aujourd'hui, j'irais, c'est par là, par l'Immaculée Conception, par le cœur immaculé de Marie, que notre monde pourra être sauvé. Et quand Notre-Dame demande à l'Église, au pape, de consacrer la Russie à son cœur immaculé de Marie, que le pape, il est uni à tous les évêques du monde, consacre le monde à son cœur immaculé de Marie, elle ne demande pas qu'on définisse une nouvelle vérité de foi. Ça a déjà été défini. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Mais elle indique par quelle voie, par quels moyens, eh bien, le monde pourra être sauvé. Alors pour nous, eh bien, il faut retenir la leçon et avoir cette dévotion à l'Immaculée Conception. Lui demander le secours pour triompher du mal, du péché, pour que la chrétienté, son cœur immaculé, Marie et Mère de l'Église, triomphe du monde. Et nos armes, dans ce sens-là, c'est le chapelet. Ce chapelet qui nous rappelle à travers ses mystères, l'ordre surnaturel, la rédemption. C'est la lutte, le refus du péché. Voilà donc un peu quelques éclaircies sur l'Immaculée Conception. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Ça a peut-être été un peu technique au départ, un peu abstrait. Autrement, on va t'arrêter là, et puis s'il y a des questions, je peux répondre en privé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Cœur douloureux et immaculé de Marie. Ô Marie conçue sans péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.